France Inter.
La science forensique.
Ça se rapproche de mener une enquête, non ? Il y a beaucoup ça en cybersécurité, justement. Et du coup, on mène une enquête. On va chercher des traces qu'aurait laissé l'attaquant mal intentionné pour trouver la cause du problème et y remédier.
Bonjour à toutes et à tous. Si nous sommes réunis dans Zoom Zoom Zen cet après-midi, c'est évidemment pour zoomer, comme d'habitude, sur une expression dans l'air du temps qu'on va décortiquer avec des spécialistes. Mais c'est surtout pour partager un dernier moment de convivialité à l'antenne avec notre camarade Quentin Lui, dont la cavale s'arrête donc aujourd'hui. Il était aux abois, l'URSSAF était, vous le savez, sur ses talons, mais aussi désormais la PJ de Lille. On savait tous qu'il tomberait un jour, que toutes ces sociétés écrans, Lui Special Operations, Quentin Trust Unlimited, Ayrton Senna Foundation for Children, with Polio, Little Bush & Co. serait un jour démasqué. Mais c'est finalement une empreinte digitale laissée sur le montant de la fenêtre du Carlton de Lille qui aura permis de le confondre. Le laboratoire de sciences forensiques du Nord a transmis les analyses à celui qui est notre invité aujourd'hui, le général François Daoust, qui immédiatement, il a tiqué en voyant ces empreintes qui ne pouvaient appartenir qu'à deux types d'individus. Soit un adulte avec des mains d'enfant, soit un enfant avec un âge d'adulte. Dans le fichier d'Interpol, un seul profil matché. Le général l'a tout de suite reconnu. Nom de Dieu, c'est le type qui avait déjà volé un percolateur chez Café Richard en 2011. Celui qui dit mesurer 1m70, mais qui mesure en vrai 1m67. C'est Quentin Lui. Une fois de plus, les sciences forensiques sur lesquelles on zoome aujourd'hui avaient permis de résoudre une affaire. C'est donc la tête basse et menottes au poignet que Quentin sortira tout à l'heure du studio 521, escorté par le général, afin de compenser un peu le choc terrible que ça représente pour Manon, voir son coéquipier la quitter comme ça en pleine saison, même pas pour aller chez Nagui, mais directement à Fresnes. On lui a demandé ce qui lui ferait plaisir. Elle nous a dit, sans hésiter, rencontrer Jacques Pradel. On a dit ok, Zoom Zoom Zen spécial science forensique, c'est parti.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Jacques Pradel, François Daoust, bonjour messieurs.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Jacques Pradel, vous êtes journaliste, écrivain, vous avez fait les belles heures de TF1, vous avez présenté durant 10 ans l'émission L'heure du crime chez nos amis d'RTL et vous êtes aujourd'hui la voix du podcast Chronique criminelle. On va en reparler. Vous êtes le co-auteur du livre que j'ai apporté avec mon studio, Police technique et scientifique, le choc du futur aux éditions du Rocher, que vous avez coécrit donc avec François Daoust, qui est à mes côtés aussi. François, vous êtes général de gendarmerie, directeur du centre de recherche de l'école des officiers de la gendarmerie nationale et de la Forensic School, carrément, de l'université de Cergy-Paris.
Oui.
C'est correct tout ça,
ah, c'est, hein,
pour
c'est
l'instant,
correct,
c'est bon. Alors, messieurs, vous allez nous expliquer les progrès considérables réalisés par les sciences forensiques ces dernières années. Juste le temps de vous présenter deux journalistes qui, eux aussi, ont fait des progrès considérables ces deux dernières années. Probablement le fait de travailler avec moi.
Oui,
Manon
Mariani,
Quentin Lui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour tout le monde. Vous avez un chat dans la gorge.
J'ai plus qu'un chat dans la gorge, mon petit Quentin.
Vous êtes pas bien,
je suis patraque.
À force de dire des mensonges sur les gens.
Mon cher Jacques Pradel, c'est un moment assez particulier pour Manon qui, je vais citer ses mots exacts pour ne pas créer de problème dans son couple, s'endort avec vous chaque soir. Pradel, c'est ma passe, s'est-elle écriée l'autre jour, quand on a émis l'idée de vous inviter. Oui, Jacques, elle est accro à vos chroniques criminelles sur TFX, ce qui, d'ailleurs, par contre, pour conséquence, que notre collègue Fabrice Drouel ne lui adresse plus la parole. C'est pour ça qu'il vous déteste. Maintenant, j'imagine
même
que
si les écoute, hein.
Vous allez vous faire dédicacer le livre.
Mais oui, évidemment.
Un grand moment pour vous. Alors, maintenant, on l'imagine, c'est très intimidé que vous allez nous présenter tout à l'heure votre veille sanitaire devant votre idole.
Non, mais calmez-vous, Mathieu. Aujourd'hui, zoom sur des influences au fonds de commerce bien particulier, on les appelle les carefluenceurs. Ce sont des influenceurs aides-soignants. Et oui, alors ce ne sont pas des personnes qui travaillent dans des hôpitaux, mais des personnes qui s'occupent de leurs proches et qui le racontent sur les réseaux. Et je vais vous expliquer pourquoi ce business est super malsain dans ma veille sanitaire.
À vos côtés, général Daoust.
C'est pas vrai.
Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et avec le bagout qu'on lui connaît, on ne doute pas une seconde qu'il nouera derrière les barreaux d'excellentes relations avec Jonathan Daval et son sugar daddy Guy Georges. Mais pour l'heure, il savoure en votre compagnie ces derniers instants de liberté. Si vous sentez qu'il cherche à s'échapper, surtout n'hésitez pas à le taser.
Ouais, bah oui.
Ça se trouve, en plus, il aimera ça. Quentin, chaque après-midi, vous partez à la rencontre des auditeurs pour voir s'ils y connaissent quelque chose à notre mot du jour. Alors là, les sciences forensiques, ça leur leur parle.
Ah bah, c'est bien simple, les gens ne parlent que de ça. J'avais trop de témoignages, les gens couraient à mon micro, ils voulaient plus le lâcher, les forces de l'ordre sont intervenues en me disant de ranger ma pancarte. Est-ce que vous trouvez que j'en rajoute? Non, j'ai galéré, mes comédiens sont en vacances, je n'ai plus de petite mallette remplie de liquide à l'intérieur. Alors ce sera un micro-trottoir complètement à la rue, avec quand même une petite surprise dedans qui devrait vous faire plaisir.
Ah, qui fera plaisir en tout cas aux auditeurs d'Inter, ça c'est sûr. Vers 16h30, émission sur les sciences forensiques oblige, on installera une grande bâche plastique dans le studio et on disséquera des cold cases, ces affaires que seule la science peut aider à résoudre. Qui triomphera? Quentin et le général ou Manon et Jacques Pradel? Avec de telles équipes, un air de Ligue des Champions, flottera aujourd'hui sur le Zoom Zoom Test. En fin d'émission, c'est Rosa Burstein qui nous rejoindra. Mais plongeons dans les mystères de la science forensique, rien que le nom, ça fait rêver. Jacques Pradel, François Daoust, cette science forensique, on en a beaucoup parlé quand la série Les Experts a inondé la France. Mais est-ce que c'est vraiment ça, la police scientifique, ou est-ce qu'en vrai, on en est très loin? Moi, c'est pour moi le but de cette émission, c'est de comprendre la différence entre la réalité et ce qu'on voit sur les écrans. Alors, général.
Eh bien, c'est à la fois oui et à la fois non. Parce que la série Les Experts montre des éléments techniques et scientifiques qui existent, mais qui, au lieu de se faire en 40 minutes...
Ah ben c'est ça.
Ça peut se faire en plusieurs semaines, voire mois. Ouais. Et il y a plusieurs experts qui interviennent, et non pas un seul, qui est capable de tout faire, y compris les interrogatoires, arrêter les personnes, et tout ça en escarpin, c'est extraordinaire.
Jacques, vous partagez ce sentiment, c'est un peu décalé ce que vous voyez, c'est un condensé.
Oui, je dirais, vu de mon côté, je dirais que les séries télé ont créé des vocations qui remplissent actuellement les écoles de préparation à la police scientifique. Et juste un mot quand même pour établir une vérité. Je dois à la fréquentation du général qui est en face de moi le fait d'avoir appris que moi je disais toujours les sciences forensiques parce que je prononçais à l'anglo-saxonne,
à l'anglais.
Et c'est François qui m'a appris que c'était un mot français. On ne peut pas plus français dans la mesure où ça remonte à Diderot, d'Alembert.
Alors attendez, n'allez pas trop là-dessus parce que sinon vous piquez le job de Cyril. Et je sens que Cyril va devenir bougon.
Non, justement. Non, au contraire.
Justement, les amis.
Featuring général Daoust, ça me va.
En bout de table, cette barbe inquiétante, ce regard lubrique de pédocriminel belge des années 80. François, Jacques, je vous présente notre rédacteur en chef Cyril Lacarrière qui, moyennant une petite rallonge salariale, accepte chaque après-midi de nous raconter les origines de notre mot du jour. Alors Cyril, je vous pose la question. La science forensique, d'où ça sort?
Alors non, ce ne sont pas les Who qui ont inventé la police scientifique, mais leur musique s'est retrouvée associée à ces flics amateurs de pipettes et de traces ADN grâce à la série des Experts, CSI en version originale. La toute première version a été créée en 2000, elle a été diffusée durant 15 ans aux États-Unis et surtout c'est devenu une franchise. Après le premier CSI, on a eu les Experts Miami, les Experts Manhattan, les Experts Cyber et les Experts Vegas qui étaient en fait un recommencement de la toute première série. Bref. Toutes ont eu une particularité, c'est d'avoir un morceau des Who comme générique. Qu'un groupe précurseur du punk serve de thème musical à une franchise de séries américaines mainstream, c'est clairement le signe que le capitalisme l'a emporté. Mais bref, je le disais, ce n'est pas Pete Townshend, le leader des Who, qui a inventé la police scientifique.
Alors qui, Cyril ?
Alphonse Bertillon.
Ah.
Oui, tout de suite, ça claque moins. Il n'empêche, c'est lui qui est considéré comme le père de la police scientifique. En 1879, il invente l'anthropométrie judiciaire, aussi appelée Bertillon. Pour la faire simple, c'est une méthode d'identification des criminels par une série de mesures du corps humain et des analyses de la couleur de l'iris gauche. C'est aussi de ce bertillonnage que viennent les photos de face et de profil des personnes arrêtées, ce qu'on appelle aussi parfois des mugshots. On doit aussi à Bertillon d'avoir imposé les empreintes digitales comme manière de confondre un suspect. Un grand bravo. Ah, vous n'êtes pas d'accord, général Daoust, on en parlera. Un grand bravo quand même à cet Alphonse Bertillon qui aurait eu une carrière parfaite, s'il n'avait pas été un ennemi d'Alfred Dreyfus. Le témoignage de Bertillon a été très important lors du premier procès de cette affaire. Chargé d'analyser l'écriture d'un bordereau, Bertillon va convaincre le jury qu'il s'agit bien de celle de Dreyfus, écriture que Dreyfus aurait volontairement falsifiée. En fait, Bertillon était tout simplement antisémite. Alors, est-ce que cette science forensique est l'avenir de la police? Est-ce que ces techniques, c'est l'assurance de ne plus mettre un innocent en prison? L'intelligence artificielle va-t-elle être un nouvel atout de la maréchaussée? Pourquoi cette science n'a-t-elle pas permis d'élucider la mort du petit Grégory? Jacques Pradel, est-ce que vous écoutez les Who à fond dans votre voiture? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
On l'imagine très bien. Merci Cyril, même si finalement je n'aurais pas dû vous donner la parole parce que j'ai vu mon général tiquer. Pendant votre douce assaut, visiblement, il y a eu quelques imprécisions. François Daoust, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a fait tiquer?
Oui, c'est le fait de dire que Bertillon voulait une identification par les empreintes digitales. Bertillon a vu arriver les empreintes digitales avec une certaine réserve. Pourquoi? Parce que ça bousculait le système qu'il avait mis en place de l'anthropométrie judiciaire qui s'était développé dans le monde entier grâce à lui. Et dire que les empreintes digitales allaient permettre de faire une classification beaucoup plus simple que les 36 photos, les 46 mesures, etc., etc., ben, c'était remettre déjà Bertillon au placard. Donc,
on va dire moitié-moitié. 12 sur 20 pour ce d'où ça sort.
Mais ce qui est formidable, et on le raconte aussi dans le livre, c'est que c'est pas un hasard si on dit que Bertillon est l'inventeur des empreintes digitales, parce que en 1902, il va participer à une enquête sur un meurtre dans Paris. Et en fait, l'auteur du crime, pour faire croire à un cambriolage, a brisé la vitrine d'un meuble. Et sur ce morceau de vitre, il y a une fabuleuse empreinte digitale. Et donc, du coup, Bertillon a dû se colter l'ensemble de ses fiches. Et il y a passé quelques semaines, quand même, pour retrouver l'identité de l'auteur du crime. Voilà.
C'est la première fois en 338 émissions que le disque qu'on va passer a vraiment un rapport avec notre thème du jour. Bravo, Cyril, comme quoi tout arrive. Voici The Who, Won't Get Fooled Again.
Shut
France Inter, Zoom Zoom Zen.
Vous aimez les experts Miami et Dexter, voire RIS, police scientifique, si vous êtes vraiment très pointu. Vous allez adorer notre émission sur les sciences forensiques avec le général François Daoust et Jacques Pradel qui signe justement Police technique et scientifique, le choc du futur aux éditions du Rocher, un livre passionnant. Jacques Pradel, dans l'avant-propos du livre, vous dites que le laboratoire de police technique et scientifique français est reconnu comme l'un des plus performants au monde. Alors, je ne le savais pas, je m'en doutais même pas. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on est si fort?
Ben, moi, je me suis posé la question. C'est pour ça que j'ai fait d'ailleurs un premier livre dont celui-ci, je le dis au début, est la continuation de ce premier reportage qui m'a donné le plaisir de faire la rencontre de François Daoust, puisque à l'époque, il était le patron de l'IRCGN. Il m'a fait confiance, il m'a ouvert les labos, autorisé à discuter avec tout le monde. Mais, en même temps, alors, moi je vais me permettre de le dire, parce qu'on est contre, et lui et moi, et Daoust et moi, contre la guéguerre des polices, oui. etc. Donc vous avez peut-être entendu parler, mais il y a, pour moi en tout cas, une spécificité de la gendarmerie nationale, c'est d'avoir réussi à concentrer en un seul lieu, et avec des gendarmes, c'est-à-dire des gendarmes qui ont passé des diplômes, qui sont des scientifiques à part entière, mais qui sont aussi des officiers de police judiciaire, c'est-à-dire qui connaissent les enquêtes, qui font du terrain tous les 5-6 ans.
Ils sont pas déconnectés.
Ils repartent
quoi.
Sur le... Non, voilà, ils savent ce que c'est qu'une enquête. Et je pense que ça a beaucoup joué, ça, plus le niveau scientifique qui était exceptionnel à l'IRCGN, pour que ce labo devienne l'équivalent de celui du FBI ou voilà, on cite toujours Lausanne également, qui est un centre nerveux de la science forensique. Bon, voilà.
Et Jacques, pardon, François Daoust, peut-être pour nous dire, la science forensique, c'est quoi? Parce que moi, je pensais à peu près savoir ce que c'était. Et puis, en lisant le livre, j'ai découvert déjà un nombre de mots incroyables pour des sous-disciplines des sciences forensiques. Quel est le dénominateur commun?
Alors, le dénominateur commun, c'est justement c'est forensique, qui est cette science qui regroupe tous les domaines technico-scientifiques mis au service de la justice. C'est pour ça qu'on retrouve en sous-domaine de l'ADN, les empreintes digitales, de la balistique, du numérique, ouais. de l'analyse chimique, etc., etc., et de la médecine légale également. Donc, voilà ce que recouvre la science forensique avec cette capacité qui est un raisonnement pour interpréter la trace.
Voilà. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui, le mot trace est central, parce que s'il n'y a pas de trace, il n'y a pas de police scientifique. Donc il faut savoir trouver les traces, savoir également les conserver pour le futur, parce qu'on
ne sait pas même comment la technique va évoluer.
Bah voilà, toutes les questions qu'on s'est posées sur l'affaire Grégory, par exemple, où c'était un petit peu à l'époque, mais c'est pas une critique, parce que il n'y avait pas la notion de scène de crime à l'époque de de Grégory. Même... Non, les scènes, les lieux, les berges de la Vologne ont été piétinées par tout le monde, les photographes, les journalistes, les policiers, etc., etc.
Et du coup, cette science, elle sert aussi à des cold cases, parce que ça évolue au fur et à mesure.
Il faut absolument que les scellés, comme on dit, puissent être exploitables dans l'avenir, parce que la science évolue également, et qu'on peut faire dire maintenant à des traces anciennes des choses nouvelles. Voilà.
Alors, parmi toutes ces sciences forensiques, François Daoust, laquelle, ces dernières années, a le plus révolutionné les enquêtes, de votre point de vue?
Alors, il y en a deux. La première, c'est l'ADN, qui a été une découverte par Alec Jeffrey pour l'ADN proprement dit, avec une première affaire en 1984. Et cet ADN, les techniques ayant évolué, de traces qui étaient nécessairement très riches au début, qui bien maintenant, avec une cellule même, on pourrait arriver à trouver l'ADN. Mais c'est le revers de la médaille.
Pourquoi ?
C'est que quand vous aviez une trace très riche, vous saviez qu'il y avait eu un contact réel.
Ah, là, vous pensez que c'est quelqu'un qui a frôlé la personne.
Eh oui. Ou alors, des transferts croisés, c'est-à-dire des transferts de personne à personne. Et c'est arrivé plusieurs fois. Donc,
Alors, puisque l'heure des aveux a sonné pour Quentin Luy, le multirécidiviste de la bande, autant porter à la connaissance des jurés les propos qu'il a tenus hier soir concernant son micro-trottoir sur les sciences forensiques. Je cite « Bon, ben, j'ai pas grand-chose. Soit j'y retourne pour essayer d'avoir de meilleurs témoignages, soit je torche un truc avec ce que j'ai. Étonnamment, Quentin, Cyril vous a demandé de repartir au charbon, ce que vous n'avez pas fait, préférant donc bidouiller. On écoute néanmoins votre micro-trottoir. »
C'est un beau lancement. Plein de soutien. Bon, peu de gens connaissaient la science forensique. Je vous épargne les réponses à base de forêt, les blagues sur les musiciens forensiques, ça je l'ai eu.
Ah, vous l'avez eu ?
C'est la rue, évidemment. Ce jeune homme, je le vois arriver de loin, il est saoulé, il n'a pas le temps, il est parisien, jusqu'au bout des ongles. Que fait-il dans la vie ?
C'est compliqué. Je suis dans la com. Ça va prendre des plombs si je vous raconte mon parcours. C'est quoi la question, le but ?
Oula, désolé de te déranger, Jacques Séguéla. Forcément, ouais. Je fais lire à Théo les deux mots qui constituent le thème du jour.
La science forensique. Forensique. Attends, je vais regarder sur mon portable. Hein. Ok.
Est-ce que c'est un domaine qui vous fascine ?
La police scientifique ? Les affaires criminelles, ouais. Ça me passionne plutôt pas mal, ouais. Bah, du pont de Ligonnès. Tout ce qui est Fourniret, Monique Olivier et compagnie, ouais. Ça fait pas marrer, mais ça me passionne pas mal.
Comme beaucoup de gens. Alors pourquoi Michel Fourniret ou Xavier Dupont de Ligonnès, ces monstres au visage commun, nous fascinent tant ?
Ce qui me fascine tant, c'est le côté un peu... comment on en arrive là, quoi.
Ah oui.
On a tous, je pense, en nous une part qui pourrait péter. J'ai vu un reportage sur YouTube sur les prisons de femmes criminelles. Enfin, c'était des madames tout le monde, en gros, qui parfois... Un truc qui pète dans leur tête et elles passent à l'acte, quoi.
Alors, est-ce que l'engouement pour les faits divers s'explique parce qu'on a tous une part de monstre en nous ? C'est presque philosophique. Eux deux sont collègues. Ils pressent le pas pendant leur pause déj.
Bonjour, bonjour.
C'est quoi vos prénoms ?
Sébastien.
Bérénice.
Vous avez quel âge ?
27.
26.
On est commerciaux dans un cabinet de conseil qui est spécialisé dans la cyber, l'IA et le digital.
Allez, on s'essaye à notre formule imbitable du jour.
La science forensique.
Ça se rapproche de mener une enquête, non ? Il y a beaucoup ça en cybersécurité, justement. La forensique, c'est quand on essaye de trouver la cause d'un incident et du coup on mène une enquête. Et en l'occurrence sur les systèmes d'information, c'est quand on va chercher des traces qu'aurait laissé l'attaquant mal intentionné. Pour trouver la cause du problème et y remédier.
Et oui, forensic, ça vient aussi des métiers du numérique, là où nous laissons toutes nos traces. Et d'ailleurs, c'est une vraie interrogation, la localisation GPS, les appels, les messages privés. Je leur demande si dans leur métier, ils peuvent être amenés à fournir des données à la police.
Enfin, après, je ne veux pas m'avancer, c'est du juridique, mais je pense que dans certains contextes, il y a des données qu'on ne peut pas fournir. Et de toute façon, sur certains sujets, on est obligé de les détruire.
Ah, la destruction des données numériques est-elle synonyme de destruction de preuves ? L'avenir le dira, ma dernière rencontre du jour sort de la maison de la radio, quand j'y arrive. Ray-Ban teinté bleu ciel, cheveux impeccables et mug de café fumant dans la main droite, bonjour.
Bonjour, je m'appelle Fabrice Drouel, et j'ai un âge qui change tous les ans donc je ne me souviens pas. Je suis journaliste à France Inter.
L'unique, le grand... La voix, The Voice, comme l'appelait Sinatra, notre collègue Fabrice Drouel. Alors, après plus de 2000 émissions, connaît-il...
La science forensique. Qu'est-ce que c'est ça ?
Est-ce que vous savez ce que c'est ?
Absolument pas. Forensique, je ne sais pas ce que c'est.
Ah, c'est super.
Vous mettez en échec ?
Non.
Elle regroupe l'ensemble des principes scientifiques et des méthodes techniques appliquées à l'investigation criminelle. Tiens donc, ça pourrait me servir, ça. Je suis ni flic ni juge, mais journaliste et je parle souvent de faits divers. Moi, j'ai une fascination pour toutes les sciences, déjà, d'emblée. Alors là, pour le coup, c'est juste un changement de paradigme. C'est-à-dire que j'ai traité beaucoup d'affaires criminelles avant l'ADN, et quand on la traite après l'ADN, on voit à quel point... c'est un progrès, mais considérable. En même temps, c'est de la traçabilité. Donc, faut être prudent.
Coller Fabrice Drouel sur un mot d'enquête criminelle, ça, c'est du zoom-zoom-zen 100%, bravo. Pur jus. Je lui demande à quoi ça lui fait penser.
Le Grelet, l'affaire du Grelet. Voilà un type qui a commis plusieurs viols et meurtres, qui est resté tranquille pendant 30 ans, qui a même été président d'une association, qui était conseiller municipal. Et puis, l'ADN est revenu. Et 30 ans après, il a été rattrapé par son ADN. Il a compris, il s'est suicidé. À l'automne 2021. Ça, c'est fascinant. De voir même 30 ans après comment un cold case peut cesser d'être un cold case et revenir, mais dans l'actualité. S'il n'y avait pas eu l'ADN, il serait mort tranquillement dans son lit. C'est fascinant, ça, quand même.
Le Grelet, François Vérove, qui a aussi été l'invité de l'émission « Tout le monde veut prendre sa place » de Nagui. Une autre affaire à Fabrice lui fait penser à cette science forensique.
Oui, l'affaire Dickinson, quand le juge Van Ruinbeck, je crois, faudra vérifier, hein, avait procédé à un examen de tous les gens du village. Ça, c'était extraordinaire. Un examen ADN de tous les gens du village. On n'avait jamais fait ça. Et grâce à ça, il a réussi à démêler l'affaire.
Est-ce qu'il y a une affaire sensible, là, un fait divers qu'on a actuellement, que t'es impatient de pouvoir faire une fois qu'on aura le recul?
Oui, quand on aura retrouvé Monsieur Xavier Dupont de Ligonnès, évidemment.
Et comme tout le monde, avant de filer vers l'ascenseur, il me confirme qu'après le passage de relais à 16h, il écoute Zoom Zoom Zen.
Ah oui, moi j'aime bien Zoom Zoom Zen, j'aime bien le ton de l'émission, c'est à la fois joyeux et on apprend des choses. Franchement, je ne vous dis pas ça parce que vous me tendez votre micro, mais c'est l'une de mes émissions préférées. Vraiment. Bah oui, j'apprends des choses, c'est formidable. Au revoir, monsieur Forensic.
À bientôt.
Fascination, technologie, cybersécurité, traçabilité, ADN, voilà ce qui ressort de ces faits divers que l'on scrute tous plus ou moins. Et puis, grâce à la science forensique et ses avancées possibles, on aura forcément de futurs épisodes passionnants d'affaires sensibles.
Fabrice Doyle qui a enfin compris qui vous étiez, quelle position vous occupiez dans
France Inter. Monsieur Forensic.
Monsieur Forensic,
on n'y est pas.
On se tutoie par contre.
C'est déjà un progrès. On zoome cet après-midi sur les progrès sidérants des sciences forensiques avec nos invités, Jacques Pradel et le général François Daoust, qui ont coécrit ce livre fascinant, Police, technique et scientifique, le choc du futur. Moi, quand j'entends vos témoignages et qu'on voit la différence qu'il y a l'avant et l'après ADN, comment il peut y avoir encore des cold cases aujourd'hui? Avec tous les moyens dont on dispose, on dit comment un tueur peut passer entre les mailles du filet, général.
Alors, plusieurs raisons. La première, c'est le cas date d'il y a très longtemps et il n'y avait pas encore les techniques.
Ah oui, là oui.
Donc, difficultés par rapport aux scellés, est-ce qu'ils ont été bien conservés ou autre, etc. Et parfois, il peut ne pas y avoir de traces.
Du tout.
Du tout. Donc, ou au contraire, des traces, mais pas de lien possible. Exemple, l'affaire Chevaline, on a des tas de traces.
Ah oui.
Tout ce qu'il faut.
La tuerie de Chevaline.
Mais il n'y a pas ce petit fil qui permet de dévider la bobine et d'arriver. Ouais. À l'auteur.
Jacques Pradel, on l'entendait avec Théo, pourquoi les gens sont tant fascinés par les monstres et les rebondissements d'une affaire criminelle, selon vous?
Ben, moi j'appelle ça l'effet Badeau. Hein, quand il y a un accident sur l'autoroute, en général sur la voie d'en face, on s'arrête pour regarder. Et puis, il faut aussi dire les choses comme elles sont. Il y a des gens qui sont fascinés par le macabre, par la violence, par le sang, ce qui n'est pas évidemment mon cas, ce qui n'est pas le cas du général Daoust non plus, et ce qui n'est pas le cas de Fabrice Drouel, puisqu'on vient de parler de ces émissions que j'écoute assez régulièrement également. Mais disons que cette fascination, c'est aussi parce que, comme dans les séries télévisées, on s'identifie à quelqu'un. Alors, il y a peu de gens qui s'identifient au criminel, mais il y a des gens qui s'identifient à la victime, il y a le scénario du crime, il y a peut-être aussi, moi c'est un psychiatre qui m'a dit ça un jour où je lui posais la question, la même question, il m'a dit mais c'est parce que il faut qu'on arrive à se rassurer de temps en temps. Et on peut se dire, au moins,
on a pas
ça m'est
ça.
Pas arrivé,
oui.
Voilà.
Ça va loin.
De voir les choses. Restez avec nous, le Zoom Zoom Test arrive, qui sera le théâtre d'un affrontement fratricide entre nos deux invités pour démasquer lequel des deux s'y connaît vraiment en sciences forensiques. Oui, je sais, Manon, pour vous, vous êtes sûr que c'est Jacques Pradel, mais on verra. Hein, juste après Voyou et Vanessa Paradis, c'est le bal qu'on écoute sur France Inter.
Sans issue de secours, aux lueurs pâles de la nuit qui cède au jour, se joue le bal de la vie et de ses amours, ce qui s'efface et ce qui resteront toujours.
Un grand bal qui s'étale, ravissant, insensé, 100 000 âmes qui s'emballent devant mes yeux cloués. Certains dansent, d'autres y pensent, et puis lui qui s'avance. En quelques pas de danse, c'est vrai, j'ai flanché, genoux au sol. On a dansé sous les valses folles.
Dans cette salle sans issue de secours,
brillant le bal me rappelle mes amours.
Premier fil se confondra d'autres contours.
Qu'un coup de cils m'a fait perdre pour toujours.
C'est sans mal, je l'avoue, que déroule sous mes doigts une première cavalière, une deuxième et puis trois.
Je m'emballe et me perds dans cette salle bondée où tourbillonne autant de beauté.
J'y perdrai la tête en vol. J'y perdrai la tête en vol, aérer seul sous les valses folles, soudain mes yeux se figent sur un beau portrait qui semble lassé d'une étreinte trop serrée. D'un geste se dégage et fend dans l'assemblée. Me rejoint pour une danse à ses côtés. On a dansé des années à perdre la tête. J'en garde encore quelques ampoules assez discrètes. Mais souvent les valses se soufflent avant la fin. On est proche et pourtant bien assez loin.
Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Proposition. C'est le moment de l'émission où je parle alors que le jingle n'est pas encore fini. Et où quotidiennement vous regrettez de ne pas avoir lu le bouquin de l'invité. Aujourd'hui, Manon Quentin, les invités sont deux et par gentillesse, ils vont jouer avec vous, vous offrant une chance inespérée de ne pas passer pour des brêles. C'est l'heure du Zoom Zoom Test spécial Science Forensique. Un quiz dont je m'excuse par avance auprès de nos invités s'il comporte des approximations. C'est fort possible, sachant qu'il a été préparé entre deux roulages de pète par notre stagiaire décroissante aux cheveux roses, Sybille Bulot, dans un lieu interlope où le général Daoust serait bien inspiré de décider une descente de gendarmerie, un gîte zadiste autogéré intitulé « Ça ne s'invente pas, l'anartichaut ». Car ces gens-là, malgré tous leurs défauts, font parfois preuve générale d'un certain sens de l'humour. On part donc à la découverte des techniques de police scientifique et des dossiers qu'elles ont permis de résoudre. Et on commence par l'actu brûlante, puisque les résultats sont sortis du labo pas plus tard qu'hier. Une fois de plus, l'ADN a parlé, d'après vous, que nous a-t-il appris ? Que Ronan Farrow était bien le fils caché de Frank Sinatra, comme sa mère Mia Farrow l'affirme depuis plusieurs années ? Que l'individu aperçu à une veillée de prière au monastère des Sœurs de Béthanie à Montferrand-le-Château le mois dernier n'était pas Xavier Dupont de Ligonnès ? Ou que Quentin, lui, était bien le fils biologique de Pascal Sevran ?
C'est la deuxième proposition. Oui. Voilà.
C'est une bonne réponse de Jacques. Hein.
C'est une bonne réponse de Jacques qui a été plus rapide, mais ce n'est pas tout à fait la réponse que j'attendais.
C'est deux, moi je dirais deux.
Vous êtes le fils de Pascal Sevran, c'est la bonne réponse. Oui, effectivement, mon général Quentin, vous remportez le point. C'était les réponses B et C, puisqu'en effet, les analyses ADN ont permis de conclure
que
c'était pas Dupont de Ligonnès, vous l'avez dit après, qui avait été aperçu dans ce monastère. Les deux profils ADN ne correspondent pas, annonçait le procureur de la République, ajoutant les services saisis poursuivent leurs investigations et les fastidieuses mais minutieuses vérifications de tous les signalements reçus. Traduction, vu l'agitation médiatique, on est obligé d'aller au bout des investigations, mais on a vraiment autre chose à foutre. Et c'était aussi la réponse C, puisque depuis hier, sans même avoir besoin là de procéder à une comparaison d'ADN, on a, grâce aux enregistrements des off de cette émission, notamment ce moment avant l'antenne où on procède à des essais micro, la preuve que Quentin, lui, est bien le fils biologique de Pascal Sevran.
Allez, bonjour, 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 est-ce que vous m'entendez ? Je suis bas, j'ai l'impression d'avoir 6 ans.
La chance.
Les faits étant désormais établis concernant cette filiation Quentin-Pascal Sevran, je vous propose de vous tester sur un cas pratique. Manon, Quentin, nous sommes le 9 août 1991 dans le massif des Alpes. Alors vous êtes encore cet été-là évidemment dans le ventre de vos mamans respectives. Manon prépare son dossier Sofinco. Quentin chante
« Et dans les villes de grandes solitudes ».
C'est pas possible. C'était cette année-là. Et pourtant, ce 9 août 1991, une affaire va passionner la France. Un homme est retrouvé mort en haute montagne. Il a une quarantaine d'années, il est tatoué et vêtu de cuir. Tout de suite, les gendarmes pensent à Antoine Bueno. Mais non, notre invité fétiche est rapidement retrouvé sain et sauf dans une soirée suspension et boule de geisha à Grenoble. Il faut reprendre l'enquête à zéro. Une enquête qui va aboutir grâce au progrès récent de la science forensique. D'après vous, après analyse isotopique du cadavre, que va-t-on découvrir ? Que la date du décès du mec en cuir remonte à 15 jours, 15 ans ou 5300 ans ?
Jacques. 5300 ans.
Oui. Mon général, voilà. 5300 ans.
Oji.
Vous allez. Oji. Mais oui, c'est une bonne réponse, oui, mais vous le saviez tous les deux. Mais
l'homme des glaces.
A été plus rapide, effectivement. Oji, l'homme des glaces, dont la science forensique a permis d'établir qu'il avait été assassiné avec un objet contondant il y a 5300 ans. On a même pu dire qu'il était sujet au maux d'estomac et qu'avant de mourir, il avait mangé du bouquetin et du cerf cru, exactement comme Cyril Lacarrière ce midi. Pascal Sevran, qu'il avait bien connu, parlera d'un gars en or. Mais attention, top! Je vous présente maintenant celui qui fut longtemps l'ennemi public numéro 1 des États-Unis et la hantise personnelle de l'agent du FBI, Cyril the Courier, qui avait été chargé de le traquer dans les années 80. Cet homme, c'est le Golden State Killer, un infâme serial killer qui, durant deux décennies, va traumatiser la Californie, perpétrant des dizaines de meurtres et de viols, tous plus abjects les uns que les autres. À chaque fois, le FBI arrive quelques minutes trop tard, une fois parce que Cyril a commandé un tacos qui a mis du temps à arriver, une fois parce qu'il a voulu rester un peu plus longtemps au motel pour profiter de la piscine. Les meurtres ont beau s'enchaîner, la police n'arrivera jamais à mettre la main sur ce killer, ce qui provoquera la rétrogradation de Cyril au statut d'enquêteur du FBI à celui de responsable du portique de sécurité de l'ambassade américaine à Paris. D'après vous, comment ce serial killer finira-t-il par être confondu ? Un jour, une grave maladie l'a obligé à faire un test ADN. Le con s'est fait coincer. Un jour, un membre de sa famille a fait un test d'ADN récréatif pour connaître ses origines, pour rigoler, et hop, le cousin a été coincé. Ou un jour, Cyril s'est souvenu qu'une fois, il avait fait boire le type qui lui avait avoué qu'il s'appelait Joseph DeAngelo, nom qu'il n'avait pas eu la présence d'esprit de noter, car lui-même était ivre.
B, c'est le B. B, c'est B. B.
C'est voilà. Jacques, c'est allé très vite de ce côté-là. Je suis désolé.
Ah, Manon. Manon a été la première à dire B. Moi.
Alors, je vais vous dire, Jacques,
merci,
si vous me dites que vous avez été le plus rapide, je vous donne le point. C'est une bonne réponse B.
Écoutez, la plus rapide.
Écoutez, mon général, on peut pas se laisser faire comme ça.
Nous avons les enregistrements.
La VAR est là.
En tout cas, la bonne réponse, c'était la B. C'est aussi con que ça, en 2018, alors que DeAngelo coule une retraite paisible, lui qui était, surprise, un policier, se fait enfin identifier grâce au test génétique réalisé par un cousin. Il est condamné à pas moins de 11 peines de prison à vie. Victoire du général.
Oui.
Oui, Jacques. C'est bon. Et Quentin. Et vous remportez. Alors ça, c'est la première fois qu'il y a un cadeau pour ce quiz. Vous remportez le cahier de vacances Affaires Sensibles signé Fabrice Drouel, que je vous offre vraiment du fond du cœur, d'autant qu'il ne m'a rien coûté. Merci beaucoup. Jacques Pradel et François Daoust, auteurs de Police Technique et Scientifique, Le Choc du Futur, sont toujours avec nous pour qu'ensemble on comprenne ce que sont les sciences forensiques. Alors dans le livre, vous présentez des cas concrets où on a utilisé ces sciences et des cas où elles ont été décisives. Vous citez par exemple des analyses de sang aspiré par un moustique, des enregistrements d'assistants vocaux, des analyses d'odeurs réalisées par des chiens. Est-ce que toutes ces preuves sont recevables devant un tribunal déjà ?
Alors, aux États-Unis, oui. En France, maintenant...
Oui, sauf une, sauf les chiens.
Ah, les chiens, c'est pas recevable. Ah,
les chiens, on peut faire la piste, on peut avoir une indication, mais jusqu'à présent, les tribunaux français n'ont pas retenu l'identification de l'odeur d'une personne par un chien comme étant une preuve matérielle satisfaisant à l'article 427 du Code de procédure pénale.
Bon, vous êtes un vrai général, vous connaissez tous les articles. Est-ce que la justice, elle avance aussi vite que la technologie ? On dit souvent la justice, forcément, est une grosse machine. Est-ce qu'elle peut s'adapter à des technologies qui évoluent ? Parce que, effectivement, les assassins sont pistés, ils sont traqués, il y a des traces numériques, des traces ADN, mais ils peuvent aussi avoir un temps d'avance dans le domaine numérique, notamment, je pense aux hackers, par exemple.
Bien sûr.
Jacques Pradel.
Oui, mais il y a un bras de fer quasiment permanent qui s'opère entre les équipes, on va dire, le bien contre le mal, parce que même si ça paraît un peu ringard de parler comme ça, c'est quand même ça, l'enjeu. C'est les forces du bien contre les forces du mal. Et il y a cette envie d'avoir toujours la petite longueur d'avance. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a des cyberpatrouilles maintenant. Voilà.
C'est une course à l'armement,
c'est
en
une
réalité.
Une course à l'armement.
Et justement, François Daoust, comment ça se passe, la cohabitation entre, je ne sais pas, les gendarmes à l'ancienne, qui suivent des méthodes éprouvées depuis des années, et les petits nouveaux qui sont là, les geeks, avec leurs nouvelles technologies. Est-ce que ça fonctionne bien?
Ils arrivent à trouver et à se parler, mais au téléphone. Donc comme quoi, par écran interposé. Donc je plaisante un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose en gendarmerie qui est quand même extraordinaire, c'est toujours la remise en question. Et les anciens voient arriver les jeunes en se disant « moi je faisais comme ça ». Les jeunes trouvent que les anciens, eh bien ils en font trop. Mais finalement, quand ils se retrouvent sur un cas concret, eh bien les deux se parlent et chacun arrive avec ses capacités et ses compétences. Et là, dès qu'on est pour les victimes, ça se passe très bien.
Est-ce qu'il y a des cas où les sciences forensiques ne marchent pas forcément ? Je pense par exemple au cas de viol, où c'est quand même très très compliqué, surtout si on passe un certain temps, de découvrir le ou les coupables.
Alors, ça dépend ce que vous entendez par les cas de viol. Si les prélèvements sont faits rapidement, il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas à partir du moment où le violeur ne s'est pas protégé. Mais même si c'est protégé, on peut arriver à travailler sur d'autres domaines, et on le cite d'ailleurs avec Jacques sur le livre, puisqu'il y a un violeur qui s'est fait coincer par ses propres bactéries. Les bactéries de sa victime qu'il avait eu sur lui, parce qu'il y a eu un échange à ce moment-là. Donc, il y a des cas qui sont difficiles, mais il y en a d'autres où la science avançant permet beaucoup de choses.
Quentin. Pour vous, mon général, c'est quoi l'avenir de la police scientifique? Les prochaines étapes qui vont permettre aux enquêteurs de résoudre encore plus d'affaires? On pense à l'intelligence artificielle, par exemple.
Alors, l'intelligence artificielle, là, on a travaillé dessus avec Jacques Pradel, et on est allé voir loin, et moi, parmi les laboratoires qui existent en gendarmerie. Oui, l'intelligence artificielle va aider énormément. Par exemple, quand on a des deepfakes, on a des difficultés à voir si c'est une vraie ou une fausse. On ne peut plus comme avant. Eh bien, en fait, c'est une intelligence artificielle expert qui est en train d'être construite, qui va permettre de trouver les lignes de codage du deepfake et démontrer que c'est un faux. Pareil pour la voix, pareil pour... Donc, l'intelligence artificielle, qui est une aide aux criminels, va être aussi une aide pour les experts en sciences forensiques.
Une dernière question peut-être d'actualité brûlante aussi, l'enquête sur la disparition du petit Émile l'été dernier. Pourquoi la science forensique, on a vu qu'elle est quand même assez formidable, elle ne parvient pas à résoudre ce mystère très récent? Est-ce qu'on attend trop des technologies? Il reste des mystères insolvables, ça arrive?
Bah oui.
Jacques Pradel.
Oui, bien sûr, la preuve. Si vous voulez, il y a des enquêteurs qui m'ont dit dans le passé, en parlant comme ça autour d'affaires criminelles, tu sais, la chance fait partie du talent. Et il y a des affaires où il y a la chance, il y a des affaires où il n'y a pas la chance. Et là, je pense, par contre, très sérieusement, que la gendarmerie a mis sur pied une formidable machinerie pour essayer de résoudre le mystère de la mort de ce petit garçon. Et je pense qu'elle va y arriver, parce que ça va prendre du temps, bien sûr, mais déjà, on est passé des hypothèses plus ou moins fumeuses à quelques hypothèses plus restreintes. On dit que tout est encore ouvert, mais franchement, tout bascule actuellement vers l'accident et l'accident, non pas vers le crime. Quoi.
D'accord, voilà. Un accident et ensuite dissimulation du corps, en tout cas. Dissimulation, plus ou moins.
Ou simplement, l'enfant s'est perdu.
Ah, il se perd et lui-même, voilà. Un accident commis par lui-même. Enfin, un accident qu'il a lui-même. Ouais. D'accord, très bien. Merci beaucoup, les amis. Vous écoutez France Inter, il est 16h47. On peut le dire.
On peut le dire.
Dans quelques instants, Rosa Burstein va nous rejoindre. Mais d'abord, je me tourne vers celle qui vit sa meilleure vie cet après-midi aux côtés de son idole. D'ailleurs, elle a chaud, visiblement. Oh oui, Jacques, raconte-moi encore quand Émile Louis referme la porte du bus. C'est tellement bon, s'exclame souvent Manon dans la moiteur de la nuit, alors qu'elle regarde Chronique Criminelle sur TFX.
Eh bien, je l'écoute en rentrant du travail, je le précise. Mais
voilà, et parfois au cœur de la nuit, vous me l'avez avoué. Eh bien, voilà que les rôles s'inversent cet après-midi. Manon, c'est Jacques Pradel qui va écouter, certainement tout aussi excité, votre célèbre veille sanitaire. On va découvrir un nouveau type d'influenceur aujourd'hui.
Got some new samples in, and I want to show you guys, and I need your opinion.
Lui, il s'appelle Chris Punzalan, il a 30 ans, il est américain, et il est une star de TikTok. Sur son compte, il a plus de 2,6 millions d'abonnés. Sauf que ce n'est pas un influenceur comme les autres, car sur le compte de Chris, il y a une invitée bien particulière, sa grand-mère, Anicia. Il est ce qu'on appelle un carefluenceur, on peut le traduire par un aide-soignant influenceur. Chris a décidé de consacrer une partie de son temps à aider sa grand-mère, malade et âgée, et le documenter sur les réseaux. Il le fait depuis maintenant 8 ans. Il se filme donc en train de faire à manger à sa grand-mère, en train de la coucher, en train de la mettre sur son fauteuil, de l'aider à se déplacer. Il fait aussi des jeux avec elle, ils écoutent de la musique et il lui montre même ses tatouages. Dans les commentaires, les gens se sont pris d'affection pour Anicia et Chris. Ils suivent leur petite vie avec attention et sont très sensibles au rapport entre les deux générations. Interrogé par le New York Times, Chris dit que pour lui, ce n'est pas juste un moyen d'avoir des souvenirs avec sa grand-mère, mais qu'il a réalisé que c'était très utile pour les gens qui vivent une situation similaire. D'ailleurs, ce n'est pas le seul à être un carefluenceur. Il y a aussi Jacqueline Révéry qui s'occupe de sa grand-mère et de sa maman. Elle a plus de 650 000 abonnés. Ou encore le compte Lavitch in Grace où une femme s'occupe de son mari, 300 000 followers.
Mais attendez, ce sont eux-mêmes des médecins ?
Eh ben non, en fait c'est ça qui est intéressant. Ils ne sont pas du tout aides-soignants. Ils ont juste décidé de s'occuper d'un membre de leur famille en parallèle de leur métier et d'en parler sur les réseaux. Alors de prime abord, c'est quand même assez surprenant de se dire que ce type de contenu marche sur TikTok. TikTok, on parle quand même d'un réseau où se mélange vidéos de chat, challenge de danse, tendance maquillage. On n'est pas tellement dans l'univers des maisons de retraite. Bon, mais pourtant, ces carfluenceurs cartonnent, surtout aux États-Unis. Et pour le New York Times, c'est plutôt logique compte tenu des derniers chiffres sur le sujet. Selon le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, le nombre d'aidants non payés aux États-Unis est passé de 43 millions en 2015 à 53 millions en 2020. C'est donc un vrai sujet là-bas, surtout vu leur système de santé, hein, on le sait qu'il coûte très très cher. C'est pas très étonnant de voir que des familles se retrouvent dans l'obligation de s'occuper de leurs aînés.
Ok Manon, mais de là en faire des vidéos ?
Oui, clairement, c'est une autre démarche. Car si les carefluenceurs la justifient en disant que ça aide les personnes dans la même situation qu'eux, c'est aussi une pratique qui peut interroger. Car évidemment, sous leurs airs de gentils, attentionnés, qui prennent soin de leurs proches, il y a du business. Chris Pinsalan, hein, par exemple, fait des collaborations avec des marques dans ses vidéos.
So a little while ago, I introduced grandma to these Hello Panda snacks.
Hello.
Hello. Panda. Strawberry. Chocolate.
Voilà, alors là, vous l'entendez, hein, présenter une marque de bonbons à sa grand-mère qui a du mal à lire le paquet. Et hop, une petite promotion bien placée, comme ça. Et il est même allé encore plus loin, puisqu'il a créé un site internet, Choose Day, où on peut acheter des pins à l'effigie de sa grand-mère. Je précise quand même qu'elle est décédée en février dernier. Et qu'entre deux vidéos où il parle de son deuil, eh ben, il y a une petite pub pour des pins. Et oui. Et puis, au-delà de l'aspect business, il y a aussi l'aspect moral, hein, qui rentre en ligne de compte. On parle quand même de personnes qui se sont filmées alors qu'elles sont malades, voire alitées, qui ont du mal à parler et à bouger. On n'est quand même pas loin de l'abus de faiblesse. Alors évidemment, ces personnes donnent leur accord à celui qui les filme, mais il ne faut pas oublier qu'une grand-mère de 80 ans a de grandes chances de ne pas connaître TikTok. Elle ne comprend pas forcément que la vidéo peut devenir virale et que sa vie est exposée à des millions de personnes. En fait, je vous parle souvent du charenting, hein, cette pratique qui consiste à exposer ses enfants sur les réseaux sans leur consentement. Et bien là, c'est un peu la même chose, mais pour les personnes âgées ou diminuées physiquement. Encore une preuve, s'il en manquait, que tout est bon pour faire des vues aujourd'hui, même profiter de la faiblesse de sa propre famille.
Merci beaucoup Manon, et je signale que vous-même, vous devenez carefluenceuse à travers ce nouveau compte TikTok dans lequel vous vous filmez au quotidien aux côtés de Cyril Lacarrière, en train de lui changer sa sonde gastrique. Rejoignez vite la commu, des pins cochonous seront offerts aux premiers abonnés. Rosa Burstein arrive juste après Aaron Fraser, Payback sur Inter. One, two, three,
Inter, Zoom Zoom Zen.
La science forensique fascine, mais Rosa Burstein fascine aussi, autant voire plus. Bonjour Rosa.
Bonjour Mathieu.
Alors Rosa, vous avez eu le temps de réfléchir en écoutant nos invités. Si vous deviez fomenter un crime parfait, ça serait quoi ?
Si je devais fomenter un crime parfait, je me servirais des progrès de la science forensique, dont l'objectif est de fournir des preuves scientifiques pour aider la justice à déterminer la vérité sur un crime, car qui dit police du futur dit criminel du futur. Mes victimes seraient mes voisins, un couple, Cassandra et Cédric. Cassandra est experte comptable, c'est elle qui a tout le fric. Cédric est peintre, enfin, artiste peintre. Faut pas déconner, ça lui viendrait pas l'idée de faire un vrai métier comme peintre en bâtiment. Il pourrait jamais faire un truc utile pour la société, genre raconter sa vie sur une radio publique. Jusqu'à présent, j'appréciais mes voisins. On avait même fait des apéros distancés pendant le Covid. Cassandra et Cédric ont une terrasse de 50 mètres carrés. Un jardin tropical au dernier étage avec des bambous et une fontaine zen. Oh, moi, les havres de paix, ça m'énerve. Je vous jure, même quand je vais me faire masser, je supplie, vous pouvez couper là, la connerie de méditation guidée. Mettez plutôt une chronique criminelle, voilà, ça me détend. Je crevais pas encore de jalousie pour mes voisins parce que j'ai un petit balcon sympa. Après, eux sont du côté calme avec la vue sur le quartier aux fleurs. Moi, je donne sur la rue et suis réveillée par les bus, les scouts. C'est dingue comme on respecte pas le sommeil des intermittents. On a vraiment besoin de dormir jusqu'à 13h. Voilà. Sinon, on peut pas créer. Bref, c'était pas mon lierre qui grimpait, c'était mon seum. Et ce qui a fini de me foutre la haine récemment, c'est quand ils ont acheté l'appartement en dessous du leur. Ils sont en train de casser, de creuser un trou pour se faire un penthouse sur deux étages. Quand j'essaie d'écrire ces chroniques dont le maigre revenu finance à peine mon abonnement au Nifan de Mathieu Noël, bravo pour la souplesse et très joli slip kangourou.
Cadeau.
J'entends non-stop les bruits de perceuse. Ça m'a inspiré un massacre à la tronçonneuse. Je veux qu'ils finissent comme les tableaux de Cédric en nature morte. Je vais les buter, les hacher menus, les transformer en engrais pour leur putain de bambou. J'ai peut-être pas la main verte, mais j'ai la main marronnée. Je mélangerai la terre avec leur reste et j'ajouterai les excréments des toutous de tout l'immeuble pour flouter les pistes. Et voilà, l'ADN dans le caca du chihuahua de la voisine du deuxième, celui du labrador de la famille au rez-de-chaussée. Il y aura aussi partout dans l'appart l'ADN des ouvriers jusqu'à leur odeur de sueur bien acide, recouvrant celle du jasmin. Namasté. J'irai fouiller dans les poubelles et trouverai bien quelques capotes usagées de l'étudiant Qatar, Carlos, là, et allez hop, l'ADN dans son sperme sur les draps de Cassandra. Ça va bien pimenter son Erasmus, ça. Dans l'historique de l'ordinateur de Cassandra, je mettrai en recherche comment refaire sa vie à Cancun avec un jeune Mexicain rigoureux de 20 ans de moins. Ou acheter des sombreros assortis. Je ferai aussi parler le téléphone de Cédric qui aura envoyé des messages fous de jalousie. Tu m'as toujours dit que tu détestais les nachos, menteuse ! Leur Tesla filmera les disputes provoquées. Je préfère le guacamole à tes mimoles. Leur richesse se retournera contre eux. Je me servirai de tous leurs objets connectés. Bim, un hack, quelques réglages et Alexia témoignera. Ils étaient souvent très énervés. Ça corrobore avec le récit du frigo. Ils claquaient ma porte de plus en plus violemment. La presse s'en mêlera. Mediapart sera sur le coup dans une affaire où des propriétaires harcèlent leur propre matériel électroménager. Voici se procurera des photos de bouilloires abîmées. Ce sera la surenchère avec Closer qui publiera les aveux d'un radio-réveil en PTSD. Ils hurlaient quand je les réveillais. Une enquête impossible à résoudre. Jacques Pradel parlera de cold case et moi, je siroterai ma citronnade au frais. Personne n'aura voulu racheter l'appartement de la tuerie. Je l'aurais récupéré pour une bouchée de pain. Hein ? Comment vous croyez que les riches deviennent riches ?
En étant malin comme vous, Rosa. Merci beaucoup, Rosa. Je ne vous regarderai plus jamais de la même
manière. J'ai peur.
Rappelez-moi où vous habitez, que j'emménage pas dans ce quartier. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Merci. Pourquoi ?
De toute façon,
c'est en dehors du péri.
C'est trop loin pour vous.
En dehors du péri, mais il y a des choses magnifiques en dehors du péri.
Espèce de parisianiste.
Merci Jacques Pradel et François Daou. Je rappelle évidemment votre livre pour tout comprendre au dernier progrès des sciences forensiques, police technique et scientifique, le choc du futur, disponible aux éditions du Rocher. C'est quoi d'ailleurs la plus grosse révolution que le futur nous réserve côté police scientifique ? Est-ce que ça, on arrive déjà à l'entrevoir ?
C'est dans le numérique.
Ah, c'est de ce côté-là qu'il faut...
Oui, c'est dans le numérique. Le numérique laisse plus de traces sur une scène de crime. D'ailleurs, on en a eu belle démonstration maintenant que toutes les autres traces. Donc c'est là où il faut travailler le plus et c'est ce qui apportera d'autres réponses.
Merci encore François Daous, merci Jacques Pradel d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci à tous Manon Mariani, Quentin Lui, Cyril Lacarrière, à la fabrication de cette émission, Fanny Léonore Crouzet, Cléo Grisper et Sybille Bulou. À la technique aujourd'hui, c'était Mathias Alléon et à la réalisation, celui qui a l'habitude d'être derrière une vitre sans teint, puisqu'on peut l'avouer maintenant, il est...
Recherché dans tout le pays pour vol, incendie, dégâts des eaux et concubinage avec une jument.
Merci Étienne Mertin. qui maintenant doit vite rentrer chez lui, sinon son bracelet électronique va sonner. Demain, on zoombrasse sur les PFAS, ces polluants éternels qui n'ont pas fini de nous pourrir la vie et la santé. Mais heureusement, jusqu'ici tout va bien. Marie-Mise et Marine Baousson, bonjour.
Bonjour Mathieu Noël, aujourd'hui on reçoit notre collègue Tanguy Pastureau.
Il a écrit un livre qui s'appelle Navarre et qui est une satire politique.
A tout de suite Mathieu.
A tout de suite les filles.